BFM Business. Toute l'info éco et business à la mi-journée. 60 minutes business. Guillaume Paul.
Midi, il est midi, soyez les bienvenus dans 60 minutes business, dans l'actualité de ce vendredi. Comment ça va du côté de la zone euro? Christine Lagarde est à Bruxelles au Conseil européen pour en parler aujourd'hui. On va retrouver Mathieu Couache qui est sur place dans un instant. Ben oui, parce que les taux d'intérêt remontent et les écarts se creusent. Est-ce qu'on est à l'aube d'une nouvelle crise de la zone euro? On n'aurait pas balayé, soi-disant, les problèmes d'il y a 10 ans. On verra ça avec un économiste dans un instant. Sinon, comment se passer du gaz russe? Ça aussi, les Européens vont en parler tout à l'heure à Bruxelles. La France a un plan, elle a commencé à le dévoiler hier pour se passer du gaz russe, déjà pour cet hiver. On en parlera avec un spécialiste dans quelques minutes. Et puis, grève aujourd'hui chez Total pour des hausses de salaire. C'est absolument inédit, mais on verra que dans beaucoup de grandes entreprises, la pression est en train de monter très très fortement. Certains DRH ne sont pas mécontents de voir les vacances d'été arriver et même, on peut le dire carrément, on se demande dans quelle mesure le résultat des élections législatives ne va pas compromettre à court terme l'aboutissement des mesures sur le pouvoir d'achat. Ça aussi, c'était une inquiétude. On verra ça avec Caroline Morisseau, notamment dans une vingtaine de minutes. Voilà en gros tout ce qu'on vous raconte pendant la première demi-heure, évidemment. Midi et demi, 13h, BFM Business avec vous. On répond à vos questions, on vous donne la parole, vous qui recrutez. C'est parti, on est ensemble jusqu'à 13h. Donc, le Conseil européen qui continue du côté de Bruxelles et après la candidature de l'Ukraine à l'Union européenne hier, c'est un gros sujet qui va nous animer aujourd'hui puisque Christine Lagarde, la présidente de la Banque Centrale Européenne, va parler tout à l'heure. Bonjour Mathieu Couache, on vous retrouve sur place, bien évidemment. Elle va parler de la situation économique très tendue dans la zone euro et notamment de ces taux d'intérêt qui grimpent et ces écarts qu'on recommence à observer. Ça, c'est un gros sujet, Mathieu, hein.
Ah oui, alors ce n'est pas la première fois que Christine Lagarde intervient, mais généralement c'est vrai que quand elle le fait, c'est en temps de crise, et c'est le cas avec cette guerre en Ukraine, ses conséquences sur l'inflation. Le taux d'inflation annuel de la zone euro est estimé à 8,1% en mai, et la présidente de la Banque Centrale Européenne est attendue, interrogée par les dirigeants de cette zone sur les outils qu'elle peut proposer pour y faire face, comment lutter contre la fragmentation des économies de la zone euro, les écarts de taux entre les pays qui pourraient faire revenir, et c'est une très grosse crainte ici à Bruxelles, une crise de la dette. Et puis, il y a la question du prix de l'énergie aussi qui est sur la table, puisque ce prix de l'énergie, il est largement responsable de l'inflation, avec une proposition italienne, notamment pour bloquer le prix du gaz russe, le bloquer tant qu'il n'est pas totalement possible de s'en passer. Autant vous dire que les perspectives ce matin sont beaucoup moins réjouissantes qu'hier soir ici à Bruxelles. On est déjà loin de la vague d'enthousiasme dans le Conseil européen quand l'Ukraine a obtenu son statut de candidat. Ce matin, c'est bien la crise économique qui est dans toutes les têtes, avec tout de même une bonne nouvelle pour la Croatie qui fera son entrée dans la zone euro le 1er janvier 2023. C'est le premier État membre à rejoindre la zone euro depuis la Lituanie. C'était en 2015.
C'est effectivement l'info de la matinée. Merci beaucoup Mathieu. Mathieu Couache, donc en direct de Bruxelles pour BFM TV et BFM Business, bien évidemment. On va continuer à parler quand même de ce sujet de la zone euro parce que c'est vrai qu'on a des grosses inquiétudes. Frédéric Farah est avec nous par téléphone. Bonjour Frédéric.
Bonjour, bonjour à vous.
Économiste, enseignant, chercheur à Paris-Sorbonne. Oui, Christine Lagarde le dit, des taux d'intérêt qui recommencent à grimper, ça on le voit tous les jours, des écarts de taux, le fameux spread avec l'Allemagne. Est-ce que si ces taux continuent à grimper, ce qui serait dans la logique des choses, on va reparler des vieux problème entre guillemets de la zone euro, Frédéric? Est-ce que ça nous pend au nez tout ça, tout simplement?
Bah, si ça continue comme ça, oui, parce que pour plusieurs raisons, parce qu'on se retrouverait avec un risque de dette souveraine, et si c'était l'Italie par exemple qui était au cœur de la tempête, parce qu'on a vu ces derniers jours que l'écart de taux concernait aussi l'Italie, l'Italie par rapport à la vieille crise des dettes souveraines qui avait impliqué la Grèce, c'est pas le même montant en termes évidemment de dette, c'est pas le même PIB aussi. Et donc ça impliquerait peut-être que la Banque Centrale Européenne revienne sur ses programmes d'acquisition d'actifs parce qu'elle les avait interrompus parce que évidemment il faudrait détendre ces taux. Ça c'est un. Et pourquoi on reviendrait avec des anciennes choses? Parce que aujourd'hui les vieux problèmes de la zone euro sont pas entièrement réglés, même si effectivement
Est-ce qu'on en a beaucoup réglé des problèmes fondamentalement, Frédéric, depuis 10 ans?
Pas vraiment. Enfin, non. Si on peut, regarder les choses de deux façons. Soit on se dit, est-ce que les problèmes qui minent la zone euro sont toujours là ? Les problèmes qui le minent, au-delà de la dette, c'est quelque chose de très particulier. C'est des écarts de performance entre des pays. Il y a une partie des pays européens qui restent encore dynamiques et qui ont une vraie base industrielle. Et il y a une autre partie des pays qui composent la zone euro qui, au contraire, connaissent une désindustrialisation importante avec des tassements en termes de productivité. L'Italie, sa productivité est en train de se tasser. La nôtre aussi recule. Et donc, on se retrouve effectivement avec des écarts aussi qui sont très problématiques en termes de performance. Deux, effectivement, la zone euro reste une zone, même si là, les chiffres du chômage récents étaient bons, mais quand même reste une zone avec des problèmes. Et que ce que l'on a aujourd'hui mis en place, l'union bancaire n'est pas pleinement réalisée, des mécanismes de solidarité ne sont pas complètement aboutis. Donc, la zone euro est restée une zone fragile. Et en fait, on a vécu avec quelque chose de très rassurant, c'est comme la BCE faisait le travail, bah la BCE elle a créé comme une sorte d'écran. Elle a fait en sorte de dire, bah voilà, les problèmes, on les a pas résolus, mais on est là pour faire le parapluie.
Sauf que 10 ans, enfin pas tout à fait 10 ans après, mais quelques années après, on revient avec les mêmes problèmes. Retour à la case. Non, je dirais même pas retour à la case départ, parce qu'on va se retrouver avec les mêmes difficultés héritées d'il y a une dizaine d'années, mais avec des États finalement encore plus endettés qu'il y a 10 ans. Frédéric, c'est ça bien aussi sûr. Le problème finalement.
Mais bien sûr, c'est-à-dire qu'aujourd'hui effectivement, on a eu la pandémie qui a fait qu'effectivement tous les États ont laissé filer les déficits et la dette parce qu'on pouvait pas faire autrement. Ouais. On se retrouve effectivement dans une situation de fragilité. Alors certes, la Banque centrale n'est pas folle. S'il faut recommencer à racheter des actifs, elle va le faire. Mais le problème, c'est qu'elle envoie des indicateurs au marché financier un peu fait de confusion. D'un côté, elle dit qu'elle relève ses taux d'intérêt, mais tout en veillant à ce qu'il n'y ait pas de fragmentation. Comme la fragmentation sans pointer son nez, qu'est-ce que fait la BCE ? Elle dit je vais reparler aujourd'hui et je vais essayer peut-être de mettre en place de nouveaux dispositifs. Le problème, c'est qu'il y a un sentiment aussi un petit peu d'urgence qui est en train de se faire. Et en plus, on peut même pas reprocher à certains États, comme l'Italie par exemple, de ne pas faire ce que l'Union européenne lui demande. Mario Draghi, qui est à la tête de l'Italie, s'est impliqué à faire toutes les réformes structurelles que la Commission européenne pense bonnes pour l'Italie. Et on peut dire qu'il fait ça au pas de charge. Malgré ça, on a vu ces derniers jours l'écart de taux se faire. Donc on peut même pas dire qu'on était comme en 2011 où Berlusconi semblait un petit peu velléitaire et voulait pas faire tout ce qu'on lui demandait. Là, Mario Draghi, il arrive avec vraiment des réformes importantes. Et pourtant, on voit bien que la détente sur les marchés ne se fait pas complètement.
Conclusion, quand on nous dit que la Banque centrale, que les banques centrales vont resserrer leur politique monétaire, la BCE notamment, vous nous dites, faut pas se faire d'illusions. Il y a quand même des chances que face à l'urgence de la situation, des taux qui s'emballent, des États surendettés encore plus qu'il y a quelques années, qu'elles fassent marche arrière. C'est ça l'idée.
Bien sûr, parce que aujourd'hui, on est dans une logique, si je puis dire, de capture du régulateur par le régulé. C'est-à-dire, c'est la Banque centrale qui doit réguler cette affaire, mais effectivement, les États. On peut pas les laisser tomber, parce que si on les laisse tomber, c'est la Banque Centrale Européenne elle-même qui est en danger. Donc, à mon avis, on est reparti pour un tour. Et on peut pas non plus se payer une récession en Europe massive, surtout qu'il ne faut jamais oublier que la zone euro n'a jamais été dans son histoire la zone la plus dynamique de croissance à aucun moment de ces 23 ans d'euro. Donc, c'est pour cela qu'aujourd'hui, à mon avis, avant qu'il y ait vraiment un feu beaucoup plus important, je crois que la BCE va devoir l'éteindre et au plus vite, quoi.
Eh bien, effectivement, on est peut-être reparti pour un tour, effectivement, comme vous le dites, Frédéric. Merci beaucoup. Merci, Frédéric, d'avoir été avec nous.
Avec plaisir.
Frédéric Farah, économiste, enseignant, chercheur à Paris-Sorbonne. Merci, Frédéric. À très vite. Avec plaisir sur BFM Business. Midi 8. Le gaz. Vous avez peut-être suivi ça hier. Le gouvernement nous a présenté son plan pour passer l'hiver sans trop d'encombre et surtout sans gaz russe, puisque vous savez que depuis quelques jours, nous ne recevons plus du tout de gaz du côté de la Russie. On va en parler avec Didier Julien, qui est avec nous également par téléphone. Bonjour, Didier. Merci d'être avec nous. Président de Commodities and Resources. Ce que nous dit Elisabeth Borne hier, c'est que nos stocks souterrains sont bien remplis à ce stade, mais qu'on va encore essayer d'accélérer. Sauf qu'on sent que plus ça va, plus c'est difficile quand même de les remplir, ces stocks souterrains. Comment est-ce que vous regardez tout ça, vous, Didier, aujourd'hui ?
Écoutez, les capacités de réserve française en gaz, c'est environ 28% de la consommation nationale. Actuellement, c'est rempli à plus de la moitié. Et ça va devenir de plus en plus difficile à remplir, bien entendu, parce que non seulement il n'y a plus de gaz russe, mais tout le monde en Europe cherche à refaire ses réserves en même temps.
Et oui.
Et donc, les prix montent. Et c'est d'autant plus difficile que la France a une consommation, ou plutôt l'Allemagne a une consommation de gaz plus de deux fois supérieure à celle de la France, et l'Italie, c'est un peu plus de une fois et demi. Donc nous avons deux voisins qui consomment deux fois plus de gaz pour l'un, une fois et demi pour l'autre, qui est dans la même situation, refaire ses réserves.
Donc pour vous, on va passer l'hiver dans quelles conditions? Est-ce qu'on va être dépendant cette année, plus que les autres années, de la météo? Est-ce qu'il faut le voir comme ça finalement, Didier?
Ah oui, bien sûr. Oui. On va être très dépendant de la météo. La France est plutôt bien, est plutôt mieux, sera mieux habillée cet hiver, si je puis le dire, que nos voisins, parce que nous avons bien entendu l'électricité nucléaire qui est là et qui va beaucoup nous aider.
Mais combien de réacteurs seront opérationnels l'hiver prochain? Ça aussi, c'est une inquiétude, Didier, quand même. Hein. Ça va rester.
C'est une inquiétude. Ouais. Non, mais c'est bien sûr une inquiétude. Comme disait un ancien président, les emmerdes volent en escadrille en ce moment. C'est vraiment le cas. Hein. Donc, est-ce que tous les réacteurs vont être là? Bien sûr que non, mais ils devraient être en nombre suffisant pour assurer l'électricité. Et nos réserves de gaz, si elles sont remplies à 100%, comme elles devraient l'être tous les hivers, et ça n'était pas le cas l'hiver dernier, eh bien, elles devront certainement subvenir à nos besoins. Mais également subvenir aux besoins de nos voisins, parce que sans solidarité européenne face à la Russie, c'est sûr ça va pas marcher. Il faut donc une grande solidarité.
Et il faut rappeler que la solidarité, ça marche dans les deux sens. Les Européens en bénéficient avec notre énergie, notre électricité. Nous aussi, on bénéficie de cette solidarité européenne. En raison de, je crois, 40 jours par an à peu près, nous disait hier Agnès Pannier-Runacher. C'est ça, grosso modo, Didier,
oui,
aujourd'hui.
Oui, c'est ça. Bon, ça change tous les ans.
Oui.
Ça change tous les ans. On en a bénéficié parce que nous avions justement l'électricité nucléaire qui était en difficulté. Cette année, si nous sommes moins en difficulté et que nos confrères ou nos voisins sont plus en difficulté, il est bien entendu que la solidarité va jouer à plein dans les deux sens, et surtout dans le sens de la France vers l'extérieur.
Mais oui, pour conclure, comme vous nous dites, c'est peut-être la première année où on va être vraiment dépendant de la météo. Encore une fois aussi, j'insiste là-dessus, parce qu'on n'en parle pas assez, du fait de l'indisponibilité d'une partie de notre parc nucléaire. C'est aussi ça le fond du problème, Didier, il faut l'admettre aujourd'hui.
Oui, bien sûr. Si on n'avait pas fermé Fessenheim, si on avait une des centrales qui marche bien, c'est sûr qu'on serait dans une situation différente. Mais regardez quand même la situation. Cette situation fait que l'Europe de l'énergie est en train de monter une marche.
Ouais.
Nous serons encore plus solidaires. Nous allons encore mieux nous connaître entre pays européens. Et je suis optimiste. Il faut qu'on passe cet hiver ensemble au chaud et tout ira bien. Mais je sais, comme vous d'ailleurs, que c'est une situation qui va durer jusqu'en 2024, moment où l'Allemagne ne sera plus dépendante du gaz russe.
Oui. Ce qui confirme, Didier, si on était besoin, ce qu'on dit à chaque fois, c'est que c'est dans la difficulté que l'Europe avance. Voilà, une fois de plus, on en a l'illustration aujourd'hui avec.
Exactement, c'est toujours la même chose.
Avec ce dossier du gaz. Merci beaucoup, Didier. Merci d'avoir été avec nous quelques minutes encore sur BFM Business. Hein. Didier Julien, président de Commodities and Resources, avec nous sur BFM Business. Bon, puis on le disait, dans le plan du gouvernement, il y a cette nécessité, c'est Agnès Pannier-Runacher notamment qui l'a rappelé hier, de baisser notre consommation de gaz de 10% en l'espace de 2 ans. Alors comment on va faire? On va demander des efforts aux particuliers, mais ça on en parlera plus cet hiver. Et puis, on va sans doute avancer vers une réorganisation du travail pour baisser notre consommation. Comment ça va se passer? On voit tout ça avec Mathieu Pecheberti.
Pour échapper aux coupures de gaz à la maison, c'est au travail qu'il faudra faire des efforts. Les entreprises sont le principal levier pour économiser du gaz et l'objectif est donc de lisser la consommation pour éviter les pics qui pourraient conduire à des délestages. L'organisation du travail sera au cœur des discussions entre le gouvernement et les partenaires sociaux. Plusieurs solutions sont évoquées. D'abord, décaler les horaires pour étaler les deux périodes de forte consommation, le matin et en fin de journée. Ensuite, recourir davantage au télétravail. Cela permettrait de réduire la consommation de 5%, comme cela s'est déjà vu pendant le confinement. Un responsable patronal prévient toutefois qu'il ne faut pas trop changer l'organisation du travail, qui a déjà été beaucoup chamboulée pendant la crise du Covid. Et si cela ne suffit pas, des mesures plus drastiques seront étudiées, comme des arrêts anticipés d'usines très énergivores pendant quelques jours. En plus de l'impact sur les salariés, ils nécessiteront une réorganisation complète des chaînes de production. Mais c'est la méthode la plus efficace. Elle permettrait d'économiser jusqu'à 15% de la consommation.
Voilà, le monde du travail qui va s'adapter aussi à cette nouvelle donne pour économiser de l'énergie dans les prochaines années. Attention, sinon il y aura grève à la SNCF le 6 juillet prochain. La CGT Cheminots, la CFDT et Sudrail appellent à la grève donc ce jour-là pour réclamer des hausses de salaire. Grève donc le 6 juillet, mais qui débutera en fait dès le 5 juillet à 19h pour s'achever le 7 juillet à 8h du matin. Vous savez que c'est comme ça que les choses se passent en général. Et puis la voiture électrique, toujours elle. C'est le cabinet Alix Partners qui fait ce pronostic. Il nous dit que d'ici 5 ans, la voiture électrique sera majoritaire en Europe. Oui, les investissements massifs des constructeurs vont finir par porter leurs fruits. Raphaël Couder nous raconte ça.
La demande va s'accélérer considérablement. Les véhicules électriques représentaient l'an dernier à peine 8% des ventes au niveau mondial. Cette part va atteindre 33% en 2028, puis 54% en 2035. En Europe, l'adoption sera encore plus rapide. Plus de la moitié des voitures vendues seront électriques dès 2028, estime Alix Partners. Une croissance portée par des investissements massifs. Le secteur prévoit d'investir 526 milliards de dollars d'ici 2026 dans l'électrification. En revanche, à plus court terme, la voiture électrique subit de plein fouet l'inflation. En un an, le coût des matériaux nécessaires pour fabriquer un véhicule électrique a plus que doublé, explique Laurent Petitzon, le directeur général d'Alix Partners en France.
On atteint un pic, probablement, ou un plateau, donc ça va probablement redescendre, mais c'est lié en partie au lithium, au nickel, au cobalt, qui sont des matières premières qui ne sont pas présentes dans les véhicules classiques. Ouais. Donc on est à peu près sur deux fois plus de matières premières que dans un véhicule classique aussi.
Autre enseignement, la forte hausse des marges des constructeurs. Dans ce contexte particulier, le déséquilibre entre l'offre et la demande leur a permis de retrouver du pricing power et de concentrer leur production sur les véhicules les plus rentables. Résultat, pour la première fois, la part de profit réalisée par les constructeurs est plus élevée que celle de leurs fournisseurs.
Raphaël Couder avec nous sur BFM Business. Il est midi 16. On va sur les marchés tout de suite, retrouver Antoine depuis le siège de Renext à la Défense. Bonjour Antoine, bienvenue. Alors, quelque chose qu'on ne comprend pas bien.
Bonjour Guillaume.
Christine Lagarde qui nous parle, qui nous alarme sur ces taux d'intérêt qui augmentent. Or, ce qu'on voit depuis deux jours sur le marché obligataire, c'est que ça descend. Alors, elle regarde BFM Business, Madame Lagarde, sans doute, mais alors...
Non, mais Madame Lagarde, elle regarde ce qui s'est passé ces dernières semaines. Elle a raison. Les taux ont très fortement grimpé dans l'anticipation de la politique monétaire de la BCE en cours de normalisation, de la lutte contre l'inflation. Tout ça a été anticipé, mais précisément, le marché, c'est d'aller encore anticiper plus loin. Et ce qu'on voit, qu'est-ce qu'on voit ? On voit qu'on peut mettre toute la pression sur la BCE précisément parce qu'on arrive au point d'inflexion où la normalisation de la politique monétaire de la Banque centrale est en train d'entamer les perspectives de croissance de la zone euro. Et ça, on le voit à travers les indices PMI Market qu'on a pu voir hier, à travers l'indice IFO ce matin en Allemagne. Et qu'est-ce qu'on se dit ? On se dit que la récession, elle est intégrée au cours et que maintenant on voit l'après, c'est-à-dire la période où la BCE va justement faire preuve de modération peut-être dans sa politique monétaire. Donc toute la pression maintenant est mise par les marchés sur la BCE, d'où cette baisse absolument spectaculaire sur 48 heures des rendements des emprunts d'État. On était monté au-delà de 2,3% en début de semaine sur la dette française 10 ans. On était sous les 2% ce matin. Donc, c'est comme si on avait pricé des baisses de taux d'intérêt de la BCE. Bon, c'est un cas de figure un peu absurde. Ce qu'on peut dire, c'est que les marchés sont perdus, qu'on est en pleine volatilité, en plein arbitrage autour justement de ces considérations, autour de l'inflation, autour d'une possible récession, et qu'on met la pression à tout craint sur la Banque Centrale Européenne. En tout cas, aujourd'hui, tout ça profite au marché. Le CAC 40 en profite pour gagner 1,9%. On est aux portes des 6000 points, 5993, plus 1,49 pour l'Eurostoxx 50 et plus 0,8% pour le DAX à Francfort.
Bon, on retrouve des réflexes assez classiques avec des valeurs de croissance qui se reprennent nettement là, Antoine.
Oui, notamment les valeurs du luxe, bien entendu. Quand les taux descendent, ça c'est toujours propice aux achats sur les valeurs de croissance qui prospèrent dans des univers de taux un petit peu plus modérés. Alors c'est le cas de Pernod Ricard qui maintenant a un petit peu intégré les valeurs du luxe du fait de l'omniprésence des cognacs et de Rémy Martin notamment. Pernod Ricard qui gagne 4% à 178,50 €. On a également les valeurs techno, valeurs de croissance. Téléperformance qui gagne 3,9% à 293,60 €. Dassault System Chine, plus 3,6% à 36,38 €. Et puis le luxe, un petit peu plus classique, hein, Hermès qui gagne 3,3% à 1 069 €. À noter parmi les titres en baisse, alors plutôt l'automobile, tiers groupé, hein, Renault moins 2,36, 24,64, Michelin moins 0,8% à 25,59. On a Stellantis aussi moins 0,7% à 12,14. Et puis sur le SBF 120, à noter la forte baisse de Valeo qui perd 3,7% à 18,77 €. Puis je vous parlais de Rémy Cointreau avec la marque Rémy Martin, évidemment, plus 4,3% pour le titre. On est à 168,20 €, donc le secteur des vins et spiritueux assimilé au secteur du luxe qui fait figure des plus fortes hausses sectorielles de la journée. Le CAC 40, donc plus 1,9%, 5 994 points. Et du côté de l'euro dollar, 1,0549 €.
Merci beaucoup Antoine. Antoine Larigaudet depuis le siège de Renext à la Défense pour BFM Business. À lundi Antoine.
Et un bon week-end.
Et un bon week-end à lundi, même endroit, même heure. Avec grand plaisir évidemment. Midi 19, on marque une petite pause. Grève chez Total Energy pour les salaires. Aujourd'hui c'est absolument inédit, sauf que vous allez voir que il n'y a pas que chez Total que la pression est forte. Dans beaucoup de grands groupes, on met la pression sur les DRH qui ne sont pas mécontents pour certains d'entre eux de voir les vacances arriver d'ailleurs. On vous raconte ça dans un instant, à tout de suite.
BFM Business. Toute l'info éco et business à la mi-journée. 60 minutes business. Guillaume Paul.
Voilà, midi 22, on est de retour dans 60 minutes business. Alors je vous le disais, ce qui se passe aujourd'hui est absolument inédit chez Total Energy. Il y a grève aujourd'hui à l'appel de tous les syndicats CGT du groupe. Ça concerne plus de 200 filiales françaises de Total Energy. Grève à l'appel de la CGT avec une revendication. Elle est de son temps, vous me direz. C'est l'augmentation des salaires. On voit tout ça avec Charlotte Guerre.
Le syndicat exhorte la direction à augmenter les salaires au regard de l'inflation et des conséquences sur le pouvoir d'achat. Il souligne notamment les bénéfices records du groupe au premier trimestre, dopés par la guerre en Ukraine. En janvier, une augmentation générale de 2,35% a déjà été mise en place, toujours insuffisante selon le syndicat, qui demande une hausse pour les salariés de toutes les filiales, comme l'explique Thierry Defresne, secrétaire CGT.
On est parti du principe que, au-delà du fait de demander une réouverture de négociations, ce qui aussi multiplierait le nombre de négociations, il y aura autant de négociations que de filiales d'entreprises de sociétés chez Total, eh bien, on a demandé un geste unilatéral du PDG. Et évidemment qu'entre ce qui a été perçu au mois de janvier, 2,35%, et l'inflation à 5,8%, eh bien, voilà, on a ici là, un décalage. Et en fait, ben, voilà, c'est à lui de nous dire ce qu'il est capable de donner en cette période.
Côté Total Energy, pas de promesse pour l'instant. Le groupe rappelle toutefois que ses salariés ont bénéficié d'une participation moyenne de 9 000 € cette année, en hausse de 56% par rapport à l'an dernier. La CGT, elle, campe sur ses positions et assure que si les revendications ne sont pas entendues, d'autres mobilisations auront lieu dans les semaines ou mois à venir.
Voilà, appel à la grève de la CGT pour l'augmentation des salaires. Alors, ça se passe chez Total aujourd'hui, mais vous allez voir que dans beaucoup de grands groupes, la pression est en train de monter encore plus fortement. Beaucoup de DRH sont vraiment acculés pour distribuer des hausses de salaire. On voit tout ça avec Caroline Morisseau.
La pression n'est pas nouvelle, mais cette fois elle devient épouvantable, résume le DRH d'un grand groupe. Jusqu'ici, en effet, on a réussi à contenir l'impatience des salariés grâce au projet de loi pouvoir d'achat. On leur a expliqué qu'on avait besoin de savoir à quoi s'en tenir avant d'agir. Triplement de la prime Macron, prime inflation. Mais depuis les élections législatives, les salariés redoutent que les mesures n'arrivent pas comme promis cet été. Pour contenir le mécontentement, on a augmenté la prime transport de 10% pour les plus bas salaires, nous dit un DRH. D'autres encore compte sur l'arrivée des congés d'été pour faire retomber la pression. Mais si rien ne bouge cet été, en septembre, ça va être un massacre, nous dit cette même source. Dans les PME, la pression est moins forte. Celles qui pouvaient ont augmenté les salaires. Pour celles qui ne l'ont pas encore fait, c'est qu'elles n'en avaient pas les moyens. Et ça, en général, les salariés le comprennent. Les employeurs, en revanche, s'inquiètent. Contexte politique oblige. Ils redoutent que certaines mesures, comme la défiscalisation des heures supplémentaires, passent à la trappe, au profit de mesures comme le dividende salarié dont ils ne veulent pas.
Voilà, la question des salaires, gros sujet du moment et ça risque de le rester encore pour un bon moment. On continuera bien sûr à en parler sur BFM Business. Il est midi 25, on parlait auto tout à l'heure, bon, on va reparler auto. Et on va vous reparler de Toyota. Alors Toyota, pionnier incontesté de l'hybride. Bonjour Julien Bonnet, bonjour. Journaliste auto BFMBusiness.com, qui a longtemps capitalisé sur l'hybride mais qui, face à l'évolution des choses, doit se lancer dans l'électrique. Et vous avez pu découvrir il y a quelques jours, mon cher Julien, ce qui sera, mais oui, il a fallu attendre 2022 pour ça, le premier véhicule 100% électrique de Toyota. C'est ça, je lis, en fait.
Exactement. Hein. Bah, cette année, en fait, on fête les 25 ans du lancement de la Prius, donc la première voiture hybride grand public. Et donc, c'est vrai que Toyota est très célèbre pour sa technologie hybride. Ouais. Mais aujourd'hui, il se retrouve dans une situation assez particulière, notamment en Europe, avec la décision d'interdire les ventes de voitures thermiques hybrides compris pour 2035. Finalement, si on prenait la gamme Toyota aujourd'hui, il pourrait plus la vendre.
Il pourrait plus la vendre aujourd'hui.
En 2035.
Bien sûr,
c'est du temps, c'est dans le présent. Mais voilà, donc ce véhicule, il est très important. Il va en fait inaugurer une nouvelle gamme, donc il s'appelle ce premier véhicule le BZ4X. Ouais. Donc c'est un SUV comme on peut le voir.
Ouais. Si vous le regardez à la télé.
Et donc vraiment un SUV, donc le choix finalement assez rationnel du véhicule qui séduit en ce moment. Il fait 4,69 m, donc c'est de taille moyenne, c'est à peu près la taille d'un Peugeot 5008 par exemple, pour citer un modèle qu'on connaît peut-être plus en France. Voilà, il déclenche cette offensive de Toyota. BZ en fait, c'est pour Beyond Zero, donc qui est la stratégie Toyota dans l'électrique, et donc ça va être une gamme un peu à l'image de ce qu'on a chez Volkswagen avec la gamme ID qui représente vraiment les véhicules 100% électriques.
Donc ils se sont enfin résolus à venir à l'électrique. Alors, après avoir défendu l'hybride, après avoir défendu l'hydrogène, finalement, ils y sont venus, mais difficilement, c'est ça?
Oui, c'est ça. Pour résumer, la stratégie de Toyota, c'était de dire, nous, on privilégie l'hybride parce que c'est vraiment le plus simple pour nos clients. C'est aussi la technologie la plus abordable. Et l'étape d'après, ça sera finalement l'hydrogène. On sait qu'ils ont lancé une berline, la Mirai, c'est parmi les seuls constructeurs à avoir lancé une voiture hydrogène. C'est vrai que pour l'instant, l'hydrogène, le développement, il est un petit peu compliqué par rapport au 100% électrique.
Bien sûr.
Donc, le focus a été mis sur l'électrique avec des ambitions assez importantes. Donc, j'ai repris un peu les chiffres, mais en 2022 Toyota en Europe c'était 87% d'hybride, 11% de thermique, et ils avaient un début d'offre hybride rechargeable, mais ça bon c'est moins la transition. Et là finalement donc par étape, ça serait 2025 d'arriver à 10% déjà de vente de voitures 100% électriques, 2030 50% et 2035 100% bien sûr pour respecter la réglementation européenne.
Et alors pour séduire les particuliers, parce que c'est eux qu'il faut séduire évidemment, ils veulent lancer une offre simple sur abonnement et ils veulent rassurer sur le vieillissement de la batterie. On comprend parce que c'est un gros sujet d'inquiétude.
Voilà,
évidemment.
Et puis Toyota a vraiment cette image, je pense, dans le grand public de fiabilité. Ouais. Et donc, sur le 100% électrique, comme c'est souvent un doute pour les clients de savoir la durée de vie de la batterie, finalement, ils proposent une garantie 1 million de kilomètres, c'est ça, et ou 10 ans, en garantissant 70% de la capacité à partir du moment où vous faites l'entretien tous les ans dans le réseau Toyota, bien sûr. Et sur la formule d'abonnement, donc ça, c'est quelque chose qu'on voit émerger chez d'autres constructeurs, mais c'est vraiment une évolution du business model. C'est-à-dire qu'on avait déjà le leasing, la voiture. Sous forme de loyer mensuel qui comprenait déjà en général l'entretien. Là, finalement, vous rajoutez les révisions incluses, une carte de charge qui permet d'accéder à toutes les bornes et donc ne pas avoir.
Ça pour attirer le chaland aujourd'hui.
Complètement, je pense que ça va être vraiment important dans le développement de l'offre 100% électrique chez Toyota et bien sûr chez toutes les autres marques.
C'est quand même incroyable que se dire que Toyota, qui est le premier constructeur mondial, grosso modo, ça joue tous les ans à pas grand chose, a attendu 2022 pour lancer son premier véhicule 100% électrique. C'est fou quand on y réfléchit.
Complètement. Après, eux, ils ont vraiment une démarche où justement ils ont tardé parce qu'ils se disaient jusqu'à présent, en fait, on le voit bien, les voitures électriques sont plus chères que leur équivalent thermique. Donc l'équation pour eux, c'était de dire pour l'instant, pour nous, il n'est pas pertinent de proposer un véhicule 100% électrique qui serait beaucoup plus cher et donc ce serait vraiment une offre presque sur le papier mais qui ne séduirait pas vraiment les clients. Ouais. Donc là, ils sont un peu poussés forcément par la réglementation européenne et après, c'est un groupe très puissant qui aujourd'hui a la maîtrise de différentes technologies comme les principaux groupes automobiles. Mais la petite avance sur l'hydrogène, ça pourra aussi payer à plus long terme.
Absolument.
Donc à suivre, bien sûr, dans les prochaines années.
Ça reste au Toyota, évidemment. Absolument. Merci beaucoup, Julien. Julien Bonnet, journaliste auto, BFMBusiness.com, avec nous dans 60 minutes business. Il est midi et demi. On marque une petite pause. Je vous redonne les grands titres de l'actualité dans 30 secondes. Et puis Thomas Schnell arrive dans la foulée. BFM Business avec vous, comme tous les jours, jusqu'à 13h. À tout de suite. Il est midi et demi sur BFM Business. Dans l'actualité, le Conseil européen qui continue de côté de Bruxelles avec un gros sujet aujourd'hui puisque Christine Lagarde va parler tout à l'heure. Bonjour Mathieu Couache, on vous retrouve depuis Bruxelles pour BFM Business. Elle va parler de la situation économique évidemment très tendue et de ses taux d'intérêt qui continuent à grimper dans la zone euro, Mathieu.
Ah oui, alors ce n'est pas la première fois que Christine Lagarde intervient, mais généralement c'est vrai que quand elle le fait, c'est en temps de crise, et c'est le cas avec cette guerre en Ukraine, ses conséquences sur l'inflation. Le taux d'inflation annuel de la zone euro est estimé à 8,1% en mai, et la présidente de la Banque Centrale Européenne est attendue, interrogée par les dirigeants de cette zone sur les outils qu'elle peut proposer pour y faire face, comment lutter contre la fragmentation des économies de la zone euro, les écarts de taux entre les pays qui pourraient faire revenir, et c'est une très grosse crainte ici à Bruxelles, une crise de la dette. Et puis, il y a la question du prix de l'énergie aussi qui est sur la table, puisque ce prix de l'énergie, il est largement responsable de l'inflation, avec une proposition italienne, notamment pour bloquer le prix du gaz russe, le bloquer tant qu'il n'est pas totalement possible de s'en passer. Autant vous dire que les perspectives ce matin sont beaucoup moins réjouissantes qu'hier soir ici à Bruxelles. On est déjà loin de la vague d'enthousiasme dans le Conseil européen quand l'Ukraine a obtenu son statut de candidat. Ce matin, c'est bien la crise économique qui est dans toutes les têtes, avec tout de même une bonne nouvelle pour la Croatie qui fera son entrée dans la zone euro le 1er janvier 2023. C'est le premier État membre à rejoindre la zone euro depuis la Lituanie. C'était en 2015.
Merci beaucoup Mathieu. Mathieu Couache donc depuis Bruxelles pour BFM Business. Le gaz, vous avez peut-être suivi ça, le gouvernement a présenté hier son plan pour passer l'hiver sans trop d'encombre. Et surtout son gaz russe, puisque depuis quelques jours, nous ne recevons plus du tout de gaz depuis la Russie. Un plan qui nous met à l'abri d'une grosse catastrophe, mais qui ne nous prémunit pas contre certaines difficultés éventuelles. C'est ce que nous disait ce spécialiste de l'énergie, Didier Julien, tout à l'heure. Écoutez son analyse.
Les capacités de réserve française en gaz, c'est environ 28% de la consommation nationale. Actuellement, c'est rempli à plus de la moitié. Et ça va devenir de plus en plus difficile à remplir, bien entendu, parce que non seulement il n'y a plus de gaz russe, mais tout le monde en Europe cherche à refaire ses réserves en même temps.
Et oui.
Et donc, les prix montent. Et c'est d'autant plus difficile que la France a une consommation, ou plutôt l'Allemagne a une consommation de gaz plus de deux fois supérieure à celle de la France, et l'Italie, c'est un peu plus de une fois et demie. Donc, nous avons deux voisins qui consomme deux fois plus de gaz pour l'un, une fois et demie pour l'autre, qui est dans la même situation, refaire ses réserves.
Et voilà, y en aura-t-il pour tout le monde ? Ça reste la grande question. Didier Julien avec nous tout à l'heure sur BFM Business. Attention, en France, il y aura grève à la SNCF le 6 juillet prochain. La CGT, la CFDT et Sudrail appellent à la grève ce jour-là pour réclamer des hausses de salaire. Grève le 6 juillet donc, mais qui débutera, vous savez comment ça se passe, dès le 5 à 19h pour s'achever le 7 à 8h du matin. Voilà comment les choses se passent de manière générale. La Bourse de Paris, elle rebondit ce midi fortement même. Le CAC 40 progresse en ce moment de 1,88%. 5 993 points en ce moment pour l'indice parisien. Midi 34, BFM Business avec vous, c'est parti.
60 minutes business, BFM Business avec vous.
Avec vous, avec nous et avec Thomas Schnell comme tous les jours. Bonjour mon cher Thomas.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous.
On rappelle les modalités évidemment pour nous écrire, nous poser les questions, nous faire des offres d'embauche et venir les présenter. Et on aura deux recruteurs avec nous tout à l'heure comme tous les jours. Hashtag BFM Business avec vous, les réseaux sociaux. Avec vous, @bfmbusiness.fr, l'adresse internet, le site bfmbusiness.com. Et je vous rappelle que tout ça, bien sûr, c'est totalement gratuit. De quoi parle-t-on aujourd'hui mon cher Thomas?
C'était il y a un an, presque jour pour jour, c'était il y a une vie presque, la réouverture des terrasses, des cafés, des restaurants qui sonnaient aussi le retour en entreprise. Depuis, l'épidémie a accéléré le développement en informatique des entreprises, l'accélération des changements au sein de nos espaces de travail. Frédéric Simotel, bonjour.
Bonjour Thomas.
Vous êtes notre spécialiste tech. On va parler justement de cette remise en cause de comment est-ce qu'on organise la vie de bureau aujourd'hui. Repenser l'environnement de travail des collaborateurs, c'est les nouveaux défis des entreprises aujourd'hui.
Oui, on a vu un déploiement massif et prolongé du télétravail, collaboration à distance, ce fameux travail hybride aussi, puis l'évolution des espaces physiques. On se demande, oui, les bureaux vides, il y en a de moins en moins parce que les entreprises font quand même beaucoup revenir leurs salariés, mais voilà, ça dépend des jours. Donc il faut aménager tout ça. Et vraiment, ce sur quoi il faut jongler, c'est l'hybridation entre présentiel et distanciel. Alors, c'est bien pour les collaborateurs. Est-ce que c'est bien pour le travail collaboratif? Non, tout le monde répond d'une seule voix. Pour mieux innover, il faut quand même se rencontrer. Pour mieux collaborer, il faut quand même se rencontrer. Donc, ça ne suffit pas. Donc, aujourd'hui, on voit beaucoup de nouveaux enjeux dans les entreprises. Alors, certes, elles sont en pleine accélération numérique de tous leurs process qui sont dématérialisés, etc. Enfin, voilà, on en parle à longueur de journée ici. Il y a la migration vers le cloud. On modernise son système d'information. On renforce la cybersécurité. On intègre de l'intelligence artificielle. Voyez, il y a tout ça. Et le nouveau défi qui sera ajoute, bon, il y a la réduction de l'empreinte carbone, ça c'est clair, au niveau numérique, mais il y a aussi donc repenser complètement son espace de travail.
Et alors il y a plusieurs enjeux et plusieurs critères qui sont sortis, c'est notamment une question que nous a adressée Johanna. Elle souhaite renouveler le parc informatique de ses collaborateurs. Quels sont les principaux critères à respecter?
Alors la première chose, il faut réfléchir mobilité. Aujourd'hui, c'est vrai qu'avoir le poste de travail fixe, ben aujourd'hui de moins en moins. Alors ça dépend encore une fois des fonctions. Certains, ça ne sert à rien d'avoir des portables, mais enfin il faut quand même réfléchir à ces portables. Et là, ce qui change aussi, c'est qu'à une époque, on a eu, vous savez, cette mode de l'ultra portable. Voilà, c'était le portable qu'on pouvait ramener à la maison, qui était très léger. Oui, mais le problème, c'est comme on fait de plus en plus de télétravail, eh bien quand on est à la maison avec un petit écran, 13 pouces, moins d'autonomie, beaucoup moins puissant, ça devient compliqué. Donc aujourd'hui, vraiment, il faut des outils plus mobiles, plus autonomes, les meilleures performances audio et vidéo. Et oui, il faut y penser parce qu'on est souvent en visio, donc il faut une bonne caméra, il faut un bon audio. Voilà, il faut penser à tout ça aujourd'hui quand on choisit des équipements. Il faut voir aussi que ce sont des équipements qui doivent travailler très facilement en ce qu'on appelle multi-device, c'est-à-dire très facilement, une fois que j'ouvre mon ordinateur portable, hop, il se connecte à un autre écran, il se connecte à mon casque pour faire ma visioconférence, il se connecte à ma tablette pour avoir un écran supplémentaire. Donc il faut vraiment aussi penser à tout ça, à la facilité, hein, qu'on soit pas toujours en train d'aller dans les paramètres. Enfin voilà, tout le monde a vécu ça à une époque. Aujourd'hui, il faut aller beaucoup plus vite. Donc il y a ce second écran, travailler avec les écrans mobiles, avoir des applications aussi qui très vite ont fait l'écran déporté. Voilà, on n'a pas tout reconfiguré à chaque fois. On allume, toc, on a un deuxième écran qui s'allume. Et puis, voilà, on peut commencer à bosser. Et puis il y a des nouveaux PC, hein, qui parfois certains ont un deuxième petit écran qui est au niveau du clavier. Ça, voilà,
ah bon,
c'est Asus qui fait ça. Lenovo le fait aussi. Donc on a son clavier normal, ouais. Et au-dessus du clavier, c'est en longueur, hein, ça remplace pas un deuxième écran, mais quand même ça vient. Vous êtes en train de prendre des notes et en même temps vous discutez avec vos collaborateurs, ouais. Vos partenaires, oui. Vos fournisseurs. C'est vraiment ça ce à quoi il faut penser.
Oui, c'est vrai que c'est plus difficile. On est habitué au bureau d'avoir deux écrans simultanés, ouais, face à nous, et à la maison, ben, on en a qu'un, et c'est plus difficile de jongler, de switcher d'un logiciel à l'autre. On a justement Julien qui nous raconte que dans son ETI, la direction privilégie les PC portables, alors que lui réclame des tablettes. Notamment, il se demande s'il y a des supports, on parle de cross-device, qui sont plus efficaces que d'autres.
Alors, première chose à prendre en compte, c'est la sécurité. Et aujourd'hui, on le voit, hein, on voit toutes ces attaques, ransomware, etc. Enfin, bon, on en parle aussi ici assez souvent. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, l'univers du PC est quand même beaucoup plus sécurisé et quand même plus facile à sécuriser qu'un univers des tablettes ou des smartphones, même, où on peut télécharger un peu tout et n'importe quoi. Alors, certes, il y a des entreprises qui savent gérer ces téléchargements d'applications, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, alors, le PC, c'est quand même plus solide qu'une tablette selon les métiers, hein. Si c'est une entreprise chimique et qu'on se balade un peu dans tous les ateliers, dans tous les laboratoires, bien oui, un PC c'est quand même moins fragile. La tablette demande un support, il n'y a pas de clavier, enfin après ça dépend de son métier, donc on peut comprendre qu'en termes de productivité il y ait ce côté qui soit plus facile. Après, c'est aussi une histoire de coût, hein. Les tablettes c'est quand même plus cher en général, enfin, c'est une tablette de bonne puissance, parce que là aussi, si on veut un processeur avec du stockage, c'est comme ça, et rien ne remplace un PC portable, hein, face à une tablette. Donc c'est pour ça qu'il vaut mieux privilégier le PC et puis associer, oui, à un smartphone.
Donc mobilité, cross-device, sécurité, et quand on retourne en présentiel au bureau, l'immobilier d'entreprise, comment est-ce qu'on peut bien aménager son bureau? Est-ce que y a des choses qui sont gadgets aujourd'hui ou d'autres qui favorisent la productivité?
Non, il faut voir tous les outils aujourd'hui de visio. Alors, on parle beaucoup des solutions de collaboration, des salles équipées aujourd'hui avec ça devient standard. Mais si vous ne l'avez pas, faut vraiment y penser, quoi. Cette espèce de ce qu'on appelle des pieuvres, là, espèce d'appareil, oui, au milieu, alors qui permet de faire de la conférence à plusieurs, mais qui permet aussi, hop, on a un écran, on commence à connecter cet écran. Cet écran aussi peut être tactile, hein. Alors c'est un peu plus cher, mais ça remplace pas mal de choses. Il y a aussi tout ce qui peut permettre. On a des outils qui suivent les intervenants à la voix. Alors, avant, on trouvait, c'est super, le côté unidirectionnel, c'est quand même pas mal. Vous êtes dans une réunion de 5 personnes, et quand il y en a un qui parle, c'est lui qui va prendre un peu, on n'entend pas le brouhaha derrière des autres qui seraient en train de taper sur leur clavier, qui seraient en train de bouger des feuilles. Il y a ces micros unidirectionnels, ça paraît gadget, mais quand vous êtes habitué à ce type de réunion, c'est quand même pas mal d'avoir.
Et quand vous êtes 50 dans la même réunion,
de pas être pollué. 50 paquets. Et c'est aujourd'hui, les entreprises, enfin les fabricants de PC travaillent aussi beaucoup autour de ça, c'est-à-dire sur votre PC, le micro qui va capter votre voix, si vous n'avez pas de casque, c'est de rester un peu dans votre environnement et de pas entendre, parce qu'on est beaucoup en espace, en open space, on en sait quelque chose ici chez BFM Business, et de pas capter tous les bruits qui vont déranger, non pas vous, parce que vous êtes un peu concentré, mais les autres qui vont entendre tout un tas de bruits autour de vous, qui se demandent d'où ça vient. On l'a tous connu. je pense, dans les confs, des gens qui disent attendez, je vous entends pas, il y a du bruit, je sais pas d'où. Et
coupez vos micros, voilà. C'est
coupez
ça.
Vos micros.
On connaît l'histoire.
Coupez vos micros.
Donc la vie de bureau n'est pas morte. Le bureau du futur, à quoi est-ce qu'il pourrait ressembler? Est-ce que le flex office, c'est l'avenir des open space, le fait d'avoir des postes qui sont uniques et interchangeables pour tous?
Alors, 30 secondes, Fred, allez.
Oui, alors encore une fois, ça dépend du métier, mais c'est vrai que le flex office aujourd'hui, c'est un des nouveaux enjeux. Hein, c'est avoir son espace personnel, mais qu'on puisse transporter avec soi ou qu'on puisse reconstituer un moment. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a une start-up qui s'appelle Energy Square, qui permet de. C'est une technologie brevetée de recharge par conduction. Voilà. Mmh. On n'a plus besoin d'avoir des câbles dans tous les sens. Et c'est vrai que ce flex office, ça va marcher si on arrive vraiment à avoir ce sans fil total. C'est-à-dire qu'on a oublié la batterie, et bien pas de problème. On pose son ordinateur portable, il se recharge, il se connecte en Wi-Fi. Donc là, il y a tout ce côté interopérabilité, accessibilité. Donc c'est vraiment des choses. Il faut vraiment les regarder, ne plus les regarder comme des gadgets, tout ça. Le côté sans fil, ça remplit vraiment pas mal de choses. Et puis, dernière chose, dans les entreprises, on commence à avoir des offres. Enfin, ça existait déjà, mais ça s'accentue. C'est des offres de services. Voilà, aujourd'hui, vous confiez à votre prestataire informatique, il va s'occuper de toute cette partie logistique. À la limite, votre collaborateur, il n'a plus qu'à ouvrir son ordinateur, rentrer son mot de passe, son code, et voilà, tout se connecte. Donc c'est ça aussi, il faut regarder les offres de services chez la plupart des prestataires informatiques.
Alors si on en est là, tout va bien. Merci beaucoup Frédéric Simotel avec nous sur BFM Business. Merci beaucoup Frédéric. Midi 42, on marque une petite pause et dans un instant,
on recrute.
Et on recrute. À tout de suite.
À tout de suite.
60 minutes business, BFM Business avec vous.
Allez, midi 45, on recrute. Thomas, comme tous les jours, en direct. Évidemment.
Oui, on recrute dans le spectacle vivant. C'est le moins qu'on puisse dire. On est au Crazy Horse, le célèbre cabaret parisien. Et croyez-moi, ce n'est pas une gageure de trouver des danseuses. C'est Lorraine Goumeau qui a rencontré la patronne du Crazy Horse.
On est au 12 avenue Georges V, au cœur de Paris. Est-ce que cette adresse vous dit quelque chose? On est au Crazy Horse. Alors évidemment, à l'heure où on tourne ce reportage, il n'y a pas de spectacle en cours. Mais vous allez voir, ce cabaret est en pleine ébullition et il recrute. On est avec André Deisenberg. Bonjour André.
Bonjour Lorraine.
Vous êtes la directrice générale création et marque de ce cabaret qui a combien d'années? 1951?
Bah, 71 ans.
Aujourd'hui, nous sommes à peu près 80 personnes qui travaillent au Crazy Horse.
C'est un secteur qui a connu des mois, pour pas dire des années difficiles.
Oui.
Comment ça va? Quel est votre moral à vous, de
ça
directrice, et puis
ça
de votre équipe?
Très bien, ça va très très bien. On reprend avec le printemps. Les gens reviennent, les artistes sont ravis d'être là. Nous sommes tous ravis d'être là d'ailleurs, et ça va très bien.
Alors le Crazy Horse, c'est évidemment des danseuses, on va en parler, mais pas que. Dites-nous les métiers, ce qu'on voit un peu et ce qu'on voit moins qui participent à l'animation de ce cabaret la nuit et le soir ici.
Alors en fait, il y a différents métiers, il y a beaucoup de métiers. Il y a déjà les hommes, les techniciens, les hommes de l'ombre qu'on ne voit pas mais qui font vivre le spectacle. Il y a aussi les garçons et les filles de salle, donc proches du public. Il y a les gens à l'accueil. Et puis il y a tout ce qui intéresse beaucoup moins les gens mais qui est très important. Les RH, la comptabilité, la direction générale, la communication, le marketing, le commercial. Donc ce sont des profils très importants aussi pour faire tourner le Crazy Horse tous les jours.
Comment vous arrivez à être aussi nombreux et à faire tourner le cabaret qui, il faut le dire, sans le neuf, on voit bien qu'il y a eu des travaux ici, que tout est, une nouvelle énergie est en cours. Comment vous arrivez à garder la dynamique malgré les années de pandémie, les mois de pandémie qui vous ont forcément affecté tant au niveau financier, au niveau logistique, au niveau clientèle?
Alors il y a deux choses. Le retour du public est comme une drogue, c'est fantastique. On reprend de l'énergie, on est content. Quand la troupe est contente, quand les artistes sont contents, déjà ça se passe plutôt très bien. L'autre chose, c'est au Crazy aussi, on est toujours en train de se réinventer, de proposer des choses, des guest stars, des guest créations, de faire un petit gala pour un client privé. Et tout ça aussi, ça booste, ça donne de l'énergie. Aujourd'hui, notamment, on avait Stéphane Jarny, un de nos metteurs en scène, qui est là. Il va venir travailler avec les filles, avec les danseuses. Tout ça, ça apporte l'énergie et du sourire.
Bon, un mot quand même sur vos danseuses. C'est un temple ici de la féminité, des femmes. On voit beaucoup de femmes dénudées. Comment vous abordez ce sujet-là en 2022? Qu'est-ce qui a changé par rapport aux années 50 quand le cabaret s'est lancé? En quoi c'est la femme sexy mais moderne? Et comment vous échappez peut-être aux critiques? Voilà, les critiques sur la femme nue, pour le dire très franchement, André. Bah,
déjà, je vais vous répondre. Ici, elle est habillée de lumière et elle est couverte de projection. Ici, son corps est beaucoup plus une surface de projection et une source d'émotivité, d'esthétisme, si vous voulez. C'est un cabaret de spectacle vivant, de couleurs, de projections. Ce sont des artistes, ce sont des femmes indépendantes qui sont ici par leur volonté. Et le Crazy Horse a même pris quelque part le rôle du cabaret des femmes on dit en anglais female empowerment, qui prennent leur vie en main, qui disent moi j'ai plein de choses que je veux faire et plein d'outils, et si j'ai envie de me faire habiller de lumière, je le ferai et je le fais à ma façon. Et donc c'est un lieu de fierté de femme, et ça se ressent d'ailleurs beaucoup parce qu'on a beaucoup de femmes dans le public, et je pense c'est un indicateur que ce que nous faisons plaît aux femmes et les met en valeur.
Alors on va parler de vos recrutements parce que c'est une PME de 80 personnes qui recrutent. D'abord des danseuses, vous en parlez, ce sont des athlètes, ce sont des danseuses professionnelles avec une longue formation. Ouais. De qui avez-vous besoin? Je crois qu'il y a 500 danseuses qui postulent chaque année. Oui. Combien sont retenues?
Pas beaucoup. Les danseuses du Crazy Horse doivent tout avoir. Déjà, on est dans certains critères physiques. Elles doivent avoir une base de danse classique assez poussée. Elles doivent avoir un charisme. Elles doivent être quelque part bêtes de scène, donc avoir envie de donner au public, de recevoir. C'est très compliqué. Cette année, on va en recruter environ 8 à 10. Donc là, on a déjà trouvé 4, il nous en faut encore 6.
Bon, ça c'est les danseuses, vous avez compris, c'est assez compétitif comme section. Vous avez aussi besoin de gens pour animer, des MC, des chanteurs, des artistes de variété. Oui. En 2-3 mots, décrivez-nous ces fonctions-là.
Alors, en pré-show et pendant tout le show, il y a un maître de cérémonie ou une maîtresse de cérémonie qui va suivre le public et l'aider à traverser la soirée. On en recherche tout le temps, on en a en ce moment, mais c'est toujours intéressant de voir ce qu'il y a à l'extérieur, de voir aussi un peu les tendances de ce qui se fait. Donc, on fait au moins 2-3 auditions par an. Les artistes variétés, pareil, c'est un ingrédient essentiel dans le spectacle du Crazy. Il y a les danseuses et il y a les artistes variétés qui sont là pour aussi diversifier l'offre au spectacle. On fait des auditions aussi 2-3 fois par année à Paris, mais aussi bientôt à Londres, à Berlin et à Nice. Donc, au mois de juin, on se prépare aussi pour faire des auditions à l'extérieur.
Ce cabaret, il faut le faire tourner. Vous avez besoin de métiers un peu en compétition avec BFM Business et notre groupe. Vous avez besoin de techniciens, de techniciennes, à la lumière, à la vidéo, au son. Un mot sur ces profils techniques qui sont aussi pénuriques, compliqués à trouver.
Très compliqué à trouver. Alors nous avons besoin de 5 personnes tous les soirs juste pour faire tourner le spectacle. On a une équipe de régie de 7-8 personnes en permanent, mais on travaille avec jusqu'à encore 10 personnes en temporaire. En ce moment, on cherche un technicien lumière et un technicien généraliste qui tournera un peu entre le plateau et la cabine de projection, des choses comme ça. On cherche aussi toujours des garçons et des filles, des hommes et des femmes en salle et avec l'accueil public, à l'accueil, à la boutique, au vestiaire et pour faire le service en salle. Très important aussi et très compliqué en ce moment à trouver.
Et oui, vous êtes en compétition aussi avec l'hôtellerie Café Restauration qui aussi a du mal à recruter. On en parle souvent dans notre émission. Écoutez André, merci de vous être confié à nous sur vos besoins en recrutement. On espère pouvoir vous aider. Comment on fait pour postuler?
Alors vous allez sur le site web du Crazy Horse, vous allez recrutement, il y a une section pour les artistes et il y a une section pour le reste des métiers.
Voilà, il y a une adresse qui s'affiche à l'écran aussi que vous pouvez joindre directement de la part de BFM Business. Vous l'avez entendu, métiers artistiques, danse et aussi évidemment les métiers plus traditionnels de l'image, du son et la lumière, ça se passe au cœur de Paris et c'est un peu le signe que quand même l'économie du spectacle reprend. Alors on vous souhaite plein de succès. Merci. Pour la revue et puis pour votre équipe.
Merci.
Voilà, le Crazy Horse qui recrute des danseuses, des chanteuses, d'autres. On n'a pas vraiment le profil pour ça, nous, Thomas, malheureusement. Enfin,
bientôt, peut-être.
Bientôt, peut-être. Mais voilà, vous allez sur le site du Crazy Horse. Effectivement, il y a beaucoup de profils disponibles. Voilà, midi 52. Bah, on continue de recruter, nous, sur notre lancée, Thomas, évidemment.
On part de Paris, on va à Nantes, à Carquefou, dans la banlieue nantaise, pour l'économie circulaire. Murphy répare les appareils électroménagers, lave-linge, réfrigérateur. Lorraine Goumeau y était.
On est du côté de Carquefou, dans une zone industrielle toute neuve. On est entouré par des gros cartons. Vous vous demandez peut-être ce que c'est pour ceux qui nous suivent à la télévision. Eh bien, ce sont des lave-vaisselles, des lave-linges reconditionnés par Mathieu Badeau et toute son équipe dans cet atelier. Bonjour Mathieu.
Bonjour.
Merci de nous accueillir. Vous êtes chef d'atelier chez Murphy, M-U-R-F-Y. On vous connaît pour être un des acteurs de l'économie circulaire, du reconditionnement. Avec vous, on est définitivement dans l'économie, dans la parcimonie. Décrivez-nous quelques-unes des machines qu'on voit autour de nous, puisqu'on est au cœur de l'entrepôt là.
Alors, on va avoir des lave-linges, des lave-vaisselles, des réfrigérateurs, des sèche-linges, des congélateurs, des plaques à induction et des fours. On ne reconditionne pas les hottes.
Pas les hottes, mais vous voyez tout le reste. Alors, on est avec vous qui êtes chef d'atelier, 20 ans de métier, vous avez gravi tous les échelons. Et on est avec vous pour parler évidemment recrutement, parce que c'est une filière, le reconditionnement, qui recrute notamment pour Murphy du côté de Nantes, mais aussi du côté de Bobigny, de Lille et de Lyon. Alors, dites-nous quels sont les métiers qu'on va voir là d'ici quelques secondes et quels sont les gens dont vous avez besoin pour continuer à opérer ce site.
Alors on a besoin de techniciens expérimentés pour avoir des futurs chefs d'équipe. Nous avons besoin de techniciens qui ne sont pas forcément expérimentés car on a une académie pour les former. On a besoin d'opérateurs logistiques, que ce soit pour le nettoyage comme ici on voit derrière, pour redonner la valeur au produit une fois qu'il est réparé.
Bah oui, parce qu'une machine sale, c'est pas vendable.
Non, c'est pas vendable et c'est eux qui donnent vraiment toute la valeur au produit. On a besoin d'opérateurs VPDO, donc qui est la valorisation de pièces détachées d'occasion. C'est très important pour nous pour les fournir en clientèle et à l'atelier.
Des pièces qu'on voit derrière, vous nous disiez que ça c'était votre propre magasin, c'est ça ?
Voilà, on a créé un micro-magasin qui nous permet donc de stocker et référencer les pièces qui seraient parties au rebut sur des machines qui n'étaient plus réparables. Donc ça nous permet de les utiliser pour donner une seconde vie au produit.
Alors vous avez besoin de techniciens, vous ne nous disiez pas forcément expérimentés parce que vous avez une capacité de formation. Qu'est-ce qui est compliqué à gérer en tant que chef d'atelier ici ? C'est la pénurie de main-d'œuvre locale, c'est le manque de connaissances des opportunités professionnelles qu'il y a dans le secteur. Qu'est-ce qui est le plus compliqué ?
Je pense qu'aujourd'hui, ce qui est compliqué, ça va être vraiment de former des personnes, trouver les bonnes personnes en fait pour les former. Ça va être des personnes motivées, des personnes qui ont envie de donner un sens à leur métier. La plupart des académiciens qu'on a eu sur la nouvelle promotion, ce sont des personnes qui étaient dans des bureaux. Et je pense, avec le confinement, on en a eu marre de ça. Ils veulent trouver un métier qui a du sens et en plus un but écologique.
En plus, un but écologique. Alors, il y a déjà plein de générations ici. On va jusqu'à 55 ans, on descend jusqu'à 20 ans. Quels sont les autres postes ? Vous avez parlé de réparateurs, de techniciens. Quels sont les autres postes qui sont à pourvoir pour conclure, Mathieu ?
Alors, on va avoir besoin de toute la partie logistique, nettoyage. On va avoir besoin de personnes pour la formation de l'académie. Voilà, donc pour faire tourner l'atelier à 100%.
Bon, vous nous le disiez, on voit bien, vous cartographiez, vous couvrez la France, hein. Nantes, Lille, Bobigny, Lyon, de quoi en fait servir des clients sur tout le territoire français. Le site de Nantes, s'il y a eu quelque chose à dire sur le site en particulier pour conclure et tirer les vocations.
De particulier sur le site de Nantes, on est tous très motivés, on a tous ce but écologique et ce sens de l'écologie et on veut vraiment absolument démontrer aux consommateurs qu'aujourd'hui il faut faire de la place aux produits reconditionnés. On est tous capables d'acheter un véhicule d'occasion mais aujourd'hui personne ne va vers l'électroménager d'occasion et je pense qu'on a, vraiment on a un effort à faire, tout ce qu'on en est, tous les consommateurs.
Voilà, consommateurs, et si vous voulez venir acteur, vous aussi participer à cette économie circulaire qu'on incarne aujourd'hui, hein, Super FM Business avec vous Mathieu, eh bien c'est très simple, vous allez sur le site de Murphy, M-U-R-F-Y, onglet nous rejoindre pour candidater, des niveaux de seniorité variés, que vous soyez qualifié ou non, voilà, cette académie qui permet de vous former, et puis vous retrouvez cette interview de Mathieu Badeau sur LinkedIn, sur Twitter de BFM Business, et comme tous nos recruteurs et nos recruteuses, aussi sur la plateforme de replay de BFM Business. Merci beaucoup Mathieu et bon courage pour vos recrutements.
Merci.
Merci à vous ma chère Lorraine. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Murphy et le Crazy Horse qui recrute. Vous avez toutes les coordonnées pour aller postuler si vous êtes intéressé. Merci beaucoup Thomas Schnell qui nous a accompagnés toute cette semaine. Midi 56, on se retrouve lundi pour nouvelles aventures. Dans un instant, Nicolas Dose arrive, bien sûr, le replay des experts. Bonne journée, bon week-end, à lundi sur BFM.
60 minutes business. Toute l'info éco et business à la mi-journée sur BFM Business.